affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Merci de votre fidélité. Si vous le permettez, je commencerai aujourd'hui par une devinette. Connaissez-vous le point commun entre Michel Polnareff, Johnny Hallyday, Juliette Gréco, Yves Montand, Julien Clerc, Nicole Croisi, Barbara ou encore Serge Reggiani? Bien sûr, ce sont tous des chanteurs. Mais encore, ce sont tous des chanteurs de talent. Certes, mais encore. Eh bien, leur autre point commun est d'avoir tous interprété une ou plusieurs chansons écrites par l'académicien Jean-Loup Dabadie. Et comme un certain nombre de celles-ci viennent d'être éditées sous la forme d'un coffret de 3 compacts disques, nous avons trouvé que l'occasion était trop belle pour être manquée d'inviter Jean-Loup Dabadie, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Monsieur Dabadie, bonjour.
Eh bien bonjour, mon cher ami.
Monsieur Dabadie, Jean-Loup Dabadie, lorsque vous avez été reçu à l'Académie française, Frédéric Vitoux avait déclaré que ce n'est pas un fauteuil que vous devriez occuper, mais 4 ou 5, ceux de scénaristes, de paroliers, d'auteurs, de sketchs, de romanciers, de dialoguistes. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez tous compris, c'est votre métier de parolier qui va nous intéresser tout particulièrement. C'est en effet cet aspect de votre œuvre qui est mis à l'honneur dans ce coffret de CD, rassemblant un certain nombre de vos interprètes. Puis-je d'abord vous demander la genèse de ce coffret, qui en eut l'idée, et aussi pourquoi finalement vient-il si tard? Car il s'impose comme une évidence, une fois qu'on l'a écouté, qu'on l'a dans les mains.
Oh, c'est gentil de me dire cela. L'idée est venue de Didier Barbelivien, qui est un artiste, comme l'on sait, compositeur, auteur, interprète, qui a écrit pour beaucoup plus d'artistes que je ne l'ai fait jusqu'à présent, que moi, et qui a une qualité exceptionnelle lui-même chez un artiste, c'est qu'il n'est pas jaloux des autres. Et Didier est quelqu'un qui est très gâté par le succès, mais qui un jour a eu l'idée d'aller voir la direction de Universal, les disques Universal, et leur dire il faut faire une première compilation, parce qu'on ne peut pas tout mettre évidemment, un premier recueil des chansons de Jean-Loup, des chansons que nous on peut choisir parmi celles que nous préférons, nous, Didier Barbelivien, Universal et tout ce staff de gens merveilleux qui se sont attelés à composer ce disque. Et moi, je n'ai eu rien à faire que la photo de couverture. Autrement, ils se sont occupés tout seuls de choisir leur chanson préférée, dans celle que j'ai écrite pour Serge Reggiani, bon, le petit garçon italien, l'absence, etc. Julien Clerc, ma préférence, Femme, je vous aime, Partir, etc. etc. Michel Polnareff, On ira tous au paradis, Lettre à France, et je ne sais, puis plein d'autres aussi, qu'ils ont réunis après avoir fait ce que j'aurais été incapable de faire, c'est-à-dire discuter avec les producteurs, qui ne sont pas toujours les mêmes, de ces artistes, les éditeurs de ces chansons. Et ils ont fait un travail formidable de production. Et un jour, ils m'ont envoyé ce petit livre, cet album, en effet, en 3 disques, dont Didier Barbelivien a trouvé lui-même le titre, pas le titre de l'album qui s'appelle simplement Jean-Louis Dabadie et ses interprètes, mais l'intérieur, vous avez un
chapitrage.
Un disque. Oui, plutôt un titre, un surtitre, un titre. Un des disques est titré La vie, celui du milieu Le rire et le troisième Les larmes. Alors voilà, on peut y piocher selon son cœur ce qu'on a envie d'entendre ou de réentendre. Alors maintenant, à votre très gentille question, pourquoi ça vient si tard? Parce qu'il faut le temps dans la vie d'écrire les choses. Et c'est un beau jour. On peut faire un premier recueil de vos poèmes, de vos poésies, parce qu'elles sont, vous les avez écrites, elles ont été interprétées, et puis elles ont fait leur chemin dans le cœur des gens. Moi, c'est vrai que ça, je suis toujours très, très, très touché quand dans la rue ou dans une salle d'attente, dans un aéroport, dans une gare, des personnes viennent me voir, souvent en couple d'ailleurs, ça me touche infiniment, en disant, vous savez, telle et telle de vos chansons qui a accompagné ma vie, ou quoi, accompagné notre vie. C'est toujours des choses, j'en reçois du courrier. Par exemple, j'ai écrit un jour une chanson pour Jean Gabin qui s'appelle « je sais, maintenant je sais ».
Qui est dans le coffret.
Elle est dans le coffret. Et, mais le nombre de personnes qui me la demandent, qui m'écrivent, alors c'est plus commode maintenant par l'Académie française parce qu'on me retrouve plus facilement, mais qui m'écrivent en disant « voilà, pour mon père, pour mon grand-père, je voudrais lui lire cette chanson, je voudrais lui offrir cette chanson. » Alors, donc ça accompagne cette vie. Des chansons comme ma préférence, le nombre de mariages. Mais, voilà, c'est très, très, très touchant. Et pour moi, et c'est très encourageant, c'est très émouvant, parce que je fais un métier où il faut beaucoup d'humilité, et je peux vous dire que je n'en manque pas. C'est pas 100 fois sur le métier, mais 1000 fois sur le métier qu'il faut remettre son ouvrage. Si un interprète vous demande une modification vénielle ou importante, bien il faut s'y remettre et ne pas essayer de lui expliquer qu'il a tort, car un interprète a toujours raison, même quand il a tort, parce que ça vient de lui de refuser quelque chose ou de vouloir autre chose. Alors quand après, dans les rues ou dans les trains, dans les aéroports, les gens viennent vous dire une chose douce... comme celle-là, j'entends souvent « Alors, vous en écrivez d'autres en ce moment, pour qui ?» Et moi, que la première fois, quand j'ai entendu « Lettre à France », où on dira « Je n'étais pas moi-même en France, et donc ça m'a accompagné, ça m'a... » Vous voyez, c'est un petit peu dans cette espérance, j'allais dire une espérance imaginaire, que l'on écrit, ça vous aide à écrire, voilà.
En tout cas, ça risque d'arriver de plus en plus souvent, car sur le coffret, vous l'avez dit, beaucoup de gens vont découvrir votre visage, voire découvrir qu'un certain nombre de chansons qu'ils attribuaient de façon certaine, intuitive, à leur interprète, ont en fait été écrites par un autre, c'est-à-dire en l'occurrence par vous. Comment procédez-vous ? Enfin, je vais même vous faire une confidence. Pour certaines d'entre elles, j'étais persuadé qu'elles étaient de l'interprète, ce qui prouve que c'est réussi.
Oui, mais bien sûr, mais ça c'est...
Comment l'osmose s'écrit-elle
Comment l'osmose s'écrit-elle
entre vous choisissez vos interprètes, vous écrivez pour un interprète,
oui.
Ou une chanson qui lancée comme une bouteille à la mer, à chacun de la saisir.
Oui, c'est un travail d'artisan, vous savez. Comme je disais tout à l'heure, il faut beaucoup de simplicité, il faut beaucoup d'humilité. Il faut se mettre à sa table avec ses papiers, ses crayons, ses idées, ses débuts d'idées. Moi, j'ai sur mes murs aussi du papier à dessin que je fixe provisoirement pour marquer, pour écrire pour le lendemain ou pour une semaine après. Là, je viens de finir une chanson pour Jacques Dutronc. J'en avais trouvé l'idée il y a 3 mois et demi, à vrai dire. Et puis, je n'avais pas pu la poursuivre parce que j'écrivais un film. Et lui-même était en train de commencer sa formidable... une tournée, enfin en tout cas s'en former un spectacle avec Johnny Hallyday et avec Eddie Mitchell, je me suis dit, Jacques n'a pas besoin de chansons maintenant. Et puis l'autre jour, justement pour parler de ce coffret dont vous me faites l'honneur et le bonheur de parler dans votre émission, je suis invité à dans une grande chaîne de radio et qui je rencontre à la sortie du studio, Thomas Dutronc, le fils de François Hardy et de Jacques. Alors, il me tombe dans les bras. Je le connais depuis qu'il est tout petit, évidemment. C'est parti des enfants d'artistes qu'on a forcé à manger sa purée quand les parents étaient découragés. Occupe-toi de lui. Et mon Thomas, qui fait lui-même une brillante carrière, il me dit, tu sais, je cherche des chansons pour papa. Ah, mais ton père va enregistrer maintenant, alors qu'il sort du succès. Oui, il veut absolument... Je lui dis, j'ai une idée, telle idée, raconte-la moi. Je lui raconte mon idée. Oh, il va aimer ça, je sais pas. Entre-temps, j'ai fini la chanson et Jacques l'a entre ses mains en Corse au milieu de ses chats. Je sais pas ce qu'il en a pensé. Il faut accepter sa lenteur, comme moi je demande qu'on accepte la mienne. Mais vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes des artisans. Quelquefois, un artiste nous commande une œuvre, cette petite œuvre ciselée est tellement longtemps, de nombreuses fois coloriée, avant que, qu'on la remette à son interprète, qui est une chanson. Et voilà, ça se passe aussi simplement que cela. Moi, tous ceux que vous pouvez voir cités, que vous pouvez entendre chanter sur ce coffret, il y a, je crois, 45 titres, une quarantaine de titres, ce sont toujours des artistes qui m'ont téléphoné ou qui m'ont écrit, comme Serge Reggiani. Il aimait beaucoup écrire, il avait une très belle écriture, douloureuse comme son visage, et un peu très, très sensible et profonde comme sa voix. Et il m'écrivait une ou deux fois par an, « Jean-Loup, je vais enregistrer à telle époque, alors ça me ferait plaisir que mon poète, comme il m'a plus gentiment, m'écrive deux ou trois chansons, ou voire une. Et donc je cherchais mon idée, puis je me mettais au travail, puis après, tout simplement, je proposais à un musicien qui était merveilleux, qui est mort malheureusement maintenant, à mon grand désespoir, à tout point de vue, qui s'appelait Jacques Datin. Puis je lui envoyais la chanson, quelquefois je la lui passais par téléphone, puis lui se mettait à son piano. Quand il avait fini la chanson, tout aussi simplement, il allait la proposer à Serge Reggiani. Et voilà, c'est comme ça que nous avons fait toutes nos chansons pour Serge. Julien, c'est autre chose, il me donne des musiques. Michel Polnareff aussi. Julien me donne des musiques et il n'y a qu'une chanson dont j'ai écrit les paroles d'abord. C'était l'assassin assassiné. Voilà, parce que c'est une idée dont j'avais parlé, c'est un thème, une réflexion sur laquelle nous échangeions beaucoup, Julien et moi. Il s'était investi, pas par le truchement d'une chanson, mais en assistant à des procès, notamment un procès très important, auprès de Badinter, Robert Badinter, à Toulouse, je crois, je suis même sûr. Et c'est quand il est revenu qu'il m'en a parlé. Je lui ai dit, mais il faudrait faire une chanson. Alors, il ne voyait pas du tout comment faire une chanson avec la peine de mort. À cette époque-là, le sujet était traité dans l'autre sens par Michel Sardou, une chanson qui s'appelait « Je suis pour » et qui, comme on dit maintenant, qui cartonnait.
Michel Sardou, pour lequel vous avez écrit également.
Voilà. Et Julien m'a dit, écoute, si tu te sens de le faire, de tenter... Écris-nous une chanson sur la peine de mort. Je suis rentré chez moi, j'ai éteint toutes les musiques et tout ça, parce que les bruits m'offensent complètement, même ceux que j'adore, les oiseaux, la musique classique, ou les voix des femmes et des enfants. Je pourrais pas vivre sans ces bruits-là, mais au moment où je travaille, il faut que je ferme toutes les issues. Et je me suis mis à mon travail, puis je lui ai apporté, quelques temps après, les paroles de l'assassin assassiné. Alors lui, il a été plus rapide que moi, il a fait sa musique est magnifique, il l'a faite en 2 heures, lui.
Voilà. Vous parliez des surtitres qui jalonnent ce coffret. La vie, le rire, les larmes, on a le sentiment, en vous écoutant, et en écoutant les CD également, qu'on aurait pu donner un titre général qui est l'amitié. L'ensemble des chansons qui étaient rassemblées baignent dans l'amitié, la bienveillance.
En fait, comme dans les films que j'écris, c'est vrai que je n'y réfléchis pas, vous voyez. Ça pourrait être d'autres auteurs. Moi, j'aime bien dire... Je fais ce que je peux, les autres font ce qu'ils veulent. Vous en avez qui écrivent essentiellement sur des thèmes politiques, d'autres sur des thèmes polémiques, politiques ou pas, d'autres sur des faits divers, par exemple. Et moi, il se trouve que, Nolens Volens, j'ai toujours... je me suis toujours trouvé en train de... Je dis bien, dans mes chansons, dans mes films, dans mes pièces de théâtre, mes films... Pardon de me citer, c'est pour donner une référence, pas un exemple, je ne me permettrai pas. Mais des films comme Vincent François Paul et les autres, César et Rosalie, Un éléphant ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis, c'est toujours des bandes d'amis, c'est toujours des films choraux, comme on a dit à propos de Claude Sautet et moi, ils ont inventé le film choral, on n'a rien inventé du tout, mais c'est ce qu'on préférait faire, et moi, instinctivement, c'est vrai que, oui, je mets l'amitié et puis aussi l'amitié entre les hommes et les femmes, qui non seulement est source d'amour, mais comme l'amour est source de fêlures, de blessures, de déchirures et de larmes et de moments uniques, inoubliables. Pour l'amitié, s'agissant de l'amitié entre garçons, j'ai écrit une chanson pour Serge qui s'appelle « Le vieux couple ». Et il parle à son meilleur pote, c'était son meilleur ami à cette époque, c'était un comédien qui s'appelait Roger Pigot, qui était un beau garçon, très connu, qui tournait des premiers rôles au cinéma. C'était le meilleur ami de Serge. Ils étaient inséparables. Alors je lui ai écrit une chanson qui s'appelle « Le vieux couple », évidemment, comme on écrirait à propos d'une femme. Et puis, comme pour reprendre ce mot magnifique que vous me tendez, d'autres chansons, puisqu'on est là pour parler des chansons essentiellement, d'autres chansons, notamment pour Serge Reggiani, le vieux couple, mais entre hommes et femmes, il y a une chanson qui s'appelle « Hôtel des voyageurs », où il explique comment, avec une femme, ils sont venus pour se séparer dans cet hôtel. Ce jour-là, ils n'y arrivent pas. Quand tu fais ta valise, tu y mets mes chemises. et oui, moi j'aime beaucoup ces rapports intimes, très 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 souvent secrets entre les êtres, où qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. On arrive aux mêmes extrémités d'enthousiasme ou de chagrin ou de séparation. Vous voyez,
les interprètes qui ont chanté vos chansons sont généralement qualifiés ce style de variété française. Mmh. Moi, ce mot ne me plaisait pas, variété française. Et en fait, très curieusement, en écoutant les chansons rassemblées dans ce coffret, je me suis dit, mais finalement, en fait, si, la variété française, c'est la variété des sentiments, c'est la variété des émotions qu'on peut retrouver. La première partie du travail, c'est quoi? C'est observer, c'est vivre tout simplement, c'est saisir les instants.
Oui, c'est ça, c'est tout ce que vous dites. Oui, c'est vivre, c'est... là, tout à l'heure, je vous disais que j'avais du mal à trouver une voiture pour ne pas être en retard à notre rendez-vous. Bah, je marchais dans la rue, le nombre de gens que j'ai vus avant de trouver un taxi. Alors, je ne me dis pas à chaque fois, évidemment, ça serait minable. Tiens, voilà un portrait à mettre quelque part dans un coin de sa tête ou de son cœur. Mais il y avait une dame à un moment qui essayait, une dame d'âge moyen, c'était pas son bébé, elle essayait de risquer sa poussette à travers un passage clouté. Et elle avait peur que le feu fût rouge ou vert. À chaque fois, quand c'était rouge, c'était elle. Hop, elle se bloquait. Enfin, je marchais derrière elle. Et à un moment, je me suis dit, ça va la vexer. Je vais lui dire, vous voulez que je vous traverse votre enfant? Puis je me suis dit, c'est quand même un peu beaucoup. Mais je la voyais. Elle était à la fois énervée, elle avait un peu trop chaud. L'enfant boudait dans la poussette, elle était excédée, elle lui parlait mal et tout ça. Bon, c'est des choses. Vous vous dites, ça me servira à rien du tout. Mais c'est un personnage comme ça, ou comme les gens que vous apercevez en passant sur le trottoir, aux terrasses des cafés, un monsieur avec des lunettes noires qui fume une cigarette en tournant les pages d'un journal qu'il ne lit pas. Vous vous dites, est-ce qu'elle va venir ou pas? Parce qu'il est à bout, lui. Un monsieur attendait au café du palais, devant un du bonnet, la femme qu'il aimait. C'était une des chansons qu'on chantait du temps de mes parents. Et puis, on peut encore écrire une chanson sur ce thème aujourd'hui. Dans les trains, dans les avions, le nombre de regards qu'on croise, le nombre de visages qu'on peut observer de loin, de paupières qui se baissent, de mains qui se croisent, qui se décroisent, de regards sur le temps qui passe. Tout ça fait que cela ne vous donne pas, pour moi, ça ne vous donne pas, encore une fois, des idées que vous pouvez noter dans un petit carnet, comme un dessinateur, un peintre qui se prend des croquis comme ça dans la rue ou dans un musée. Mais cela... vous entretient dans une espèce d'état d'émotion permanent. Voilà. Je pense que qu'un artiste qui écrit, comme je le suis, est un émotif et que son émotion est tout le temps attisée par, évidemment, les choses qu'on apprend, par les nouvelles du temps, mais par le spectacle de la rue et les bruits de la rue. Vous voyez, il y a quelques jours, nous habitons à un sixième étage. Il y a quelques jours, vers minuit, dans la rue, une des rues sur lesquelles donnent nos fenêtres, on a commencé à entendre, mais de manière brève, des cris, mais pas des cris de quelqu'un qui est épouvanté ou qui est agressé, mais des cris de gens qui s'appelaient de loin, d'une rive à l'autre de la rue, comme ça. On n'entendait pas en quelle langue ils s'appelaient. Mais il y avait quelqu'un, un homme qui visiblement était furieux, et puis une femme qui criait comme pour dire « Mais tu vas pas me frapper ?» Évidemment, elle était plus loin, donc, mais elle avait peur. Et puis elle le rappelait, etc. En quelques secondes, vous avez un drame, même invisible, qui se joue dans votre rue, dans le silence de la nuit. Et c'est quelque part inoubliable. Voilà. C'est quelque part inoubliable. Vous savez, la mémoire est un trapèze volant. Toutes les figures que vous pouvez croiser, les silhouettes que vous pouvez croiser sont ces sortes d'acrobates qui ne savent pas qu'elles le sont, des acrobates, mais qui font des acrobaties autour de votre mémoire. Et dans votre mémoire, et quelquefois, vous ressentez quelque chose quand vous écrivez, surtout une chanson, hein, surtout une chanson. Parce que dans les autres écritures, pour moi, il y a beaucoup plus de techniques, mais dans la chanson, il y a beaucoup de techniques aussi.
Je suis étonné de ce que vous me dites.
Dans la chanson, il y a beaucoup de techniques. Mais les idées, les pulsions, les choses qui vous viennent sont des émotions, pour reprendre ce mot qui m'est cher, sont des émotions qui rôdaient peut-être depuis longtemps et qui reviennent sous des formes méconnues de vous ou voire inconnues. Voilà.
Lorsque vous puisez dans ces émotions, vous donnez une musicalité aux mots, aux phrases, qui ont leur propre rythme. Tous vos textes sont déjà musicaux. Je me suis amusé à les lire en dehors des interprétations habituelles telles qu'on les connaît habituellement. Elles ont déjà leur propre musicalité. Comment vivez-vous, d'une part, un compositeur, ensuite un interprète se les approprie, on les transforme.
Quelquefois, c'est le même.
Oui, quelquefois, c'est le même.
Eh bien, je le vis comme lorsque j'écris pour le cinéma ou pour le théâtre. Il y a un moment des interprètes et puis des metteurs en scène à qui on passe sa baguette. Et c'est à eux de. C'est à eux, quand ça tombe bien, de prolonger votre émotion, votre récit. C'est pour ça, moi, à propos justement de théâtre, je pense que les acteurs et les chanteurs, je leur dis à tous, à mes chanteurs, j'ai mes chanteurs comme je dis mes amis, mes enfants, mes parents, qu'ils sont en fait des acteurs. Quand j'écris une chanson, quand je leur propose une chanson, je les vois en scène, je les vois jouer sur une scène, sur un plateau de théâtre. Je ne pense pas au studio avec les enregistrements, les orchestrations, vous voyez. Tout ça, ça c'est important parce qu'il faut que le disque s'en aille dans la ville. Mais je pense que les acteurs sont les souffleurs des auteurs. Je me suis dit, je me dis à chaque fois que je n'aurais pas, même parmi les chansons complètement à l'abri du succès, hein, parce qu'il ne faut pas surtout perdre la tête. Moi, j'ai écrit à peu près 330 chansons. Ça, le chiffre paraît spectaculaire, mais c'est un petit chiffre par rapport à celui dont peuvent se prévaloir les auteurs, les paroliers qui ne font que des paroles. Moi, comme je fais, quand j'ai fini une chanson, j'écris un film ou une pièce de théâtre ou des sketchs ou autre chose. Donc, arriver à plus de 300 chansons, c'est un bon chiffre, mais c'est loin. Pierre Delanoë, qui est mort il y a quelques années, le grand parolier de Gilbert Bécaud, il avait écrit 2000, 3000 chansons. Didier Barbelivien, le grand ordonnateur de ce coffret, de cet album, lui, je crois qu'il en a écrit plus de 2000. Claude Lemel, qui ne fait que des paroles de chansons aussi, qui est un parolier important. Alors lui, c'est le bouquet, je crois qu'il approche les 10 000. Bref, moi, je suis à peu près à 350 chansons, mais un certain nombre de films, mais un certain nombre de pièces, mais un certain nombre de sketchs, etc. Donc, et d'articles dans les journaux. C'est ma vie qui est comme ça. L'humeur changeante de mon ciel à moi. Mais je peux vous dire que, bon, ça m'a rassuré de voir ce coffret, parce que je me suis dit, oui, il doit y en avoir quand même, je dirais, une trentaine de bien connus, ou très connus, bon. Mais sur 330 ou 340, vous savez, il y en a des dizaines et des dizaines, donc publiés, chantés, orchestrés, mis en scène, et totalement à l'abri du succès à l'arrivée, dont certaines qui sont des chansons que, quelquefois, que nous aimons beaucoup, sans aucun, la preuve, sans aucun narcissisme, puisqu'à l'arrivée, on ne rencontre pas le public. Je me rappelle que Julien Clerc et moi, nous avons fait une chanson qui s'appelle « Tant d'amour », tant T-A-N-T, qui raconte l'histoire d'un homme qui reste seul dans une maison vide, comme j'avais écrit pour Polnareff, mais dans d'autres termes, et qui voit partout l'ombre, le passage, l'air qui accompagnait la femme qu'il aimait et qui n'est plus dans cette maison. Bon. Et j'avais écrit cette chanson de tout mon cœur. Julien avait fait une musique, une fois de plus, prodigieuse, c'est un grand, grand, grand mélodiste. C'est, avec Charles Trenet, pour moi, c'est le plus grand compositeur, plus grand mélodiste de la chanson française que je connaisse, au-dessus de tout le monde. Il n'a jamais fait une mauvaise musique. Et il avait interprété cette chanson, Tant d'amour, il avait interprété magistralement. Personne n'en a voulu. Personne. Ni les programmateurs des radios, ni le public quand il a chanté en scène, ni personne. Voilà. Nous n'avons pas rencontré. C'est ça. Ça, c'est la quatrième ou cinquième force dont a besoin une chanson. Elle a besoin de son auteur, du compositeur, de l'interprète, donc quelquefois le même, et du public. En revanche.
C'est une alchimie qu'on ne maîtrise pas.
On ne maîtrise pas du tout. En revanche, quand nous avions fait, pour toujours avec le même Julien, sans prendre Julien, ma première vraie chanson, parce que les autres, j'avais fait des petites chansons, j'avais commencé à griffonner, comme tous les adolescents, des choses, des poèmes que certains des amis de mon père et de ma mère avaient mis en musique. Mais ma première vraie chanson, c'était Le Petit Garçon pour Serge Reggiani. Je vous assure qu'on a été surpris par le succès, comme je le suis encore. Bien sûr, on a bien travaillé les uns les autres, mais pourquoi Serge, après, avec la cinquantaine, n'ayant jamais chanté autre chose que des chansons de Boris Vian, dispointe, comme diraient mes enfants, un mois de septembre ou d'octobre, avec un disque sur lequel il y avait d'autres titres très jolis, Les Loups, des choses comme ça, Le Petit Garçon, les gens ont choisi cette chanson. Vous voyez, et comme on dit, on m'en parle encore, voilà.
Vous disiez que Serge Reggiani vous appelait mon poète. Mmh. Et en l'occurrence, lorsqu'on il n'y a pas d'ailleurs dans le coffret les paroles des chansons. C'est peut-être un parti pris d'ailleurs, de les lier à leur interprète, de les lier à la musique et à la composition.
Comme ce n'est pas moi qui m'en suis occupé, je ne sais pas. Peut-être, alors j'avance ça complètement sur la pointe des mots, comme on marche à la pointe des pieds. C'est peut-être justement, comme il y a beaucoup d'éditeurs différents, peut-être que les producteurs des disques ont pu céder à la Maison Universal les voix, les enregistrements, mais l'édition, c'est encore autre chose, et que, je ne sais pas, là, je ne veux pas trop m'aventurer, je n'en sais rien.
L'édition est certainement un métier compliqué, mais en tout cas, à mon sens, voilà, je vous lance cette idée, ça vaudrait le coup d'éditer vos chansons aussi sous forme de recueil de textes,
oui,
car de fait, lorsqu'on les lit, il n'y a plus de hiérarchie des genres. Oui. On se rend compte que les chansons les plus populaires sont des poésies.
Mais vous savez, ça me touche beaucoup que vous disiez ça. Ça a été partiellement fait. Il y a 25 chansons qui ont été publiées aux éditions Galilée, les éditions d'art, parce que ma femme Véronique et moi avons une amie dans, à Saint-Paul-de-Vence, dans le Midi, qui est peintre-graveur. Alors elle avait dit un jour à Véronique, oh, j'aimerais bien si je pouvais prendre des chansons de Jean-Loup et faire un livre avec une chanson, une gravure, une chanson, une gravure, etc. Ce qu'elle a fait. Et je me rappelle, c'était très dur, justement. Moi, je faisais tout ce que je pouvais pour que les éditeurs, sans prendre un centime, donnent le texte du poème à cet artiste, pour qu'elle puisse exercer son beau talent. Et finalement, elle est arrivée. Alors justement, on a appelé le livre « Tant d'amour ». Bon, parce que pour une revanche pour cette chanson. Que, vous voyez. Mais Véronique, ma femme chérie, quand elle entendra votre émission, elle dira « Tu vois, je te dis depuis longtemps, elle voudrait qu'on édite toutes mes chansons, ou la plupart des chansons, et des sketchs, mais c'est un travail, je crois, d'éditeur très difficile pour... vous voyez ce que je veux dire? Pour obtenir des autres éditeurs... qu'ils donnent leurs droits. Enfin, c'est un peu embêtant. C'est pas intéressant pour les personnes qui veulent bien nous écouter. Ça, mais c'est un problème technique, comme ça, un problème d'éditeur. Parce que vous avez toujours un éditeur qui peut dire ah oui, mais cette chanson, si tout d'un coup on la donne à un éditeur allemand ou japonais, ce qui arrive, et que ça devient un succès là-bas, alors on ne peut pas se défaire de. Voilà pourquoi c'est votre oreille.
C'est également la raison pour laquelle nous n'avons pas pu passer d'extrait du coffret dans cette émission, car effectivement, c'est très très complexe de passer des extraits de chansons.
Très très complexe.
Voilà. Du coup, pour nos auditeurs, la seule façon de les écouter sera de se procurer ce merveilleux coffret.
C'est gentil.
Intitulé Jean-Loup Dabadie, ses interprètes, où ils retrouveront l'ensemble de ceux dont nous avons parlé, quelques autres. Aussi, oui. Ainsi d'ailleurs que des sketchs de Guy Bedos, écrits par vous, puisque le CD numéro 2, intitulé Le Rire, est un recueil de ces sketchs.
Mais si je peux me permettre de dire quelque chose, parce que je reçois tellement de lettres qui m'émeuvent, ou de personnes même qui, hélas, m'envoient des poèmes, des poésies, etc. Et je réponds à tout le monde. Je leur dis, comme moi je m'efforce d'en écrire, que puis-je faire? Parce que je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un producteur, je ne suis pas un musicien. Vous vous adressez à moi comme si vous étiez peintre et que vous m'envoyez votre peinture, que je sois peintre moi-même. Mais pour leur dire ce que j'essaie de dire chaque fois, c'est que c'est un travail, je crois qu'on en a parlé un peu tous les deux tout à l'heure, qui est très long, très difficile. En 3 minutes et demie, 4 minutes, mettons, qu'il faut un peu plus avec les ponts musicaux ou les codas musicales, il faut inventer une histoire, la raconter aux gens, qui a un début, des rebondissements, le refrain, des retours, les autres couplets, une fin, comment ça se termine, et puis, en même temps, conduire une espèce, même avant d'avoir sa musique, si on n'en a pas, conduire sa musique intérieure. Quand je n'ai pas la musique, je me chante mes chansons sur des musiques imaginaires pour qu'elles soient, qu'elles obéissent à des consonances, des assonances, des rimes, bien sûr, un certain rythme, que le deuxième et le troisième couplet soient découpés exactement comme le premier, forcément, autrement le musicien ne pourrait pas, pour employer un petit mot technique, caler sa musique sur vos mots. Et donc c'est beaucoup de travail, il ne faut pas se décourager, c'est beaucoup de travail. Et...
C'est compliqué de faire simple.
Ah oui, c'est compliqué de faire simple. C'est très compliqué de faire simple, c'est très long de faire court. Et en fait, il faut... L'avantage, pour moi, par rapport aux autres disciplines où j'essaie d'exercer mon énergie, si j'ose dire... c'est que une chanson, en principe, est plutôt finie. Quand vous écrivez une pièce ou quand vous écrivez un film, si vous avez un coup de fatigue au bout de 40 pages, 50 pages, 60 pages, vous dites « la rive est trop loin derrière, je ne peux pas m'arrêter, et devant, il faut encore, c'est long, je ne vois pas, je vois dans le bord de la nuit, je ne vois rien du tout, là-bas, au bout de la nuit, je ne vois pas le paysage apparaître, c'est très long, donc quelquefois, on est pris de découragement ». fou. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose, comme disait Oscar Wilde à propos de l'écriture. L'angoisse est insupportable, pourvu que ça dure. Le jour où vous n'avez plus cette angoisse, il vaut mieux vous mettre à autre chose. Il y a des tas de choses formidables à faire. La marche à pied, la cuisine, tout truc merveilleux. S'occuper des autres, surtout. Mais une chanson, on se dit, bon, bah, j'ai écrit une partie comme ça, etc. Puis ça n'arrive pas au bout, c'est pas un drame. J'ai pas dépensé du temps de ma vie pour rien. Écrire, c'est toujours écrire, c'est toujours une chance. En revanche, si vous allez au bout et qu'un interprète, un artiste, veut vous chanter cette chanson, ma situation en direct avec la chanson que je viens d'écrire pour Jacques Dutronc. Bon, je ne sais pas s'il l'apprendra. Son fils me dit, oh, c'est formidable, il va adorer ça, mon père, il dit papa tout le temps, Thomas. Mais tu sais comment il est, le temps qu'il répond. Alors, je suis dans l'attente. Heureusement, je ne pense pas à ça toute la journée. Autrement, je deviendrais abruti. Mais peut-être qu'au bout de ça, Jacques me téléphonera en me disant, oh, tu sais, c'est pas pour moi. Pas envie de chanter ça maintenant. Bon, bah très bien. Et dans ces cas-là, vous dites. Bah, c'est...
Il n'en reste pas moins que cette chanson existera.
Comment ?
Il n'en reste pas moins que cette chanson, même non interprétée, existera.
Ben j'espère, oui. Sauf que notre aîné, notre grand ami Nietzsche, disait l'œuvre non publiée n'existe pas. C'est comme ça d'ailleurs que je suis arrivé en dérangeant Nietzsche. Quelle honte ! À faire chanter « Femme, je vous aime » à Julien, Claire, parce qu'au départ, il aimait la chanson, il avait fait une musique de toute beauté, il aimait la chanson, mais il n'osait pas la chanter, parce qu'il trouvait que c'était un peu une chanson de... Il avait peur que ce fût, pour les gens, une chanson de Don Juan, de bazar, quoi. Vous voyez, c'est pas « Femme, je vous aime », mais elle m'aime toute. Il craignait un petit peu ça, il était intimidé à l'idée de la chanter. Alors un jour, je faisais une émission directe sur je ne sais plus quelle chaîne, j'étais invité, je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Mon Julien, figure-toi que Nietzsche » et en même temps je me dis « Mon Dieu, déranger Nietzsche, qui me chante ma chanson ?» Nietzsche a dit « L'œuvre non publiée n'existe pas. » Alors Julien, jusqu'à présent, notre œuvre n'existe pas, puisque tu ne l'as jamais chantée, tu ne l'as jamais publiée. Alors, sois gentil, j'ai cette émission en direct, c'est un dimanche après-midi. Viens, s'il te plaît, il y a un piano droit, là, viens la chanter. Alors, il tente son dernier atout en me disant, mais j'ai plus les paroles. Ah, je lui dis...
C'est pas à l'auteur qu'il faut dire ça.
Ah non, je lui dis, alors là,
prétexte.
Il n'y a que ça. Je suis arrivé avec mes paroles pliées en quatre dans la poche arrière de la poche revolver de mon pantalon. Et Julien s'est mis devant le piano, il a chanté, il a été magnifique. Et le lendemain, il la mettait à son répertoire. Ça fait partie de la petite histoire, de nos grandes histoires de chansons. Mais je n'oublierai jamais lui non plus.
Une œuvre non publiée n'existe pas, disiez-vous. En tout cas, une œuvre publiée, elle, par contre, peut traverser le temps, survivre.
Les minutes.
Traverser les siècles. Il y a des chansons qu'on continue à fredonner et qui sont de siècles précédents. Ça fait penser à cette chanson qui nous ramène encore à la poésie. Je vais vous y ramener, à la poésie. À la chanson que vous aimez beaucoup, L'âme des poètes de Charles Trenet.
Ah, oui.
Est-ce que je peux vous demander en guise de conclusion d'en lire un passage en moi.
Mais c'est un honneur pour moi. Parce que je vous disais tout à l'heure, avant qu'on commence votre émission, dans laquelle je me suis senti très bien d'ailleurs, je vous remercie. Non, parce qu'on ne se sent pas toujours très bien. Parce que quelquefois, même en face de quelqu'un de très, très compétent et très amical comme vous, il suffit qu'on vous pose une ou deux questions, pas forcément blessantes, mais par exemple, ça ne fait pas porter l'émission, vous pourrez le couper, ça. Par exemple, nombre de fois où, dans telle ou telle émission, certains ou certaines de vos jeunes camarades me disent « Alors, puisqu'on vous êtes là, on va vous demander l'action. Cette chose, ça nous taraude depuis longtemps. Comment vous avez écrit, dans quelles conditions, le sketch pour Guy Bedos, Sophie Daumier, La Drague ?» Vous savez, la drague. Alors, chaque fois, je suis obligé de dire, mais arrêtez de me dire ça, ce n'est pas moi qui écrit. Mais je me fâche jamais, évidemment. J'en ai un passé. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai dit à Guy au téléphone, justement, pendant au cours des émissions, pour présenter l'album pour lequel vous me recevez, de coffret, ça m'est arrivé quand même une ou deux fois, et j'ai dit à Guy, c'est pas vrai, j'ai dit, tu sais, ils m'ont redemandé encore, France Bleu ou je ne sais pas où, ils m'ont dit, formidable, Sophie Daumier était tellement merveilleuse, oui, oui, et comment ça vous est venu de leur écrire la drague? Et j'ai dit à Guy, maintenant, je suis fatigué, je ne dément pas. Voilà. Je dément pas. Voilà. Moi, je dis, bah voilà, quand j'ai ça, ça m'est venu, là. J'aimais beaucoup Sophie, j'avais écrit d'autres sketchs pour elle. Voilà.
Ça peut devenir un sketch, cette histoire.
En tout cas, vous, évidemment, faut pas compter sur moi pour dire que c'est moi qui ai écrit L'âme des poètes. Hélas, pas hélas. C'est ce grand génie. Je le rencontrais sur la fin de sa vie et je lui disais toujours d'aller le voir. Je le rencontrais dans les restaurants, quelquefois, comme ça, était toujours avec une bande de messieurs, souvent des Canadiens, d'ailleurs, Charles. Alors, plus la vie avançait, plus il était de toutes les couleurs. Les cheveux orange, et un jour, j'ai vu, avec ses cheveux orange, puis un manteau en cachemire magnifique, turquoise, comme ça. Alors, j'avais dit, écoutez, Charles, c'est magnifique, ce que j'avais rencontré au vestiaire. Mais pourquoi vous habillez comme ça en ce moment? Il m'a dit, pour qu'on me remarque. Oui, il était drôle, il était gay jusqu'à la fin de sa vie. Alors, je vais avoir l'honneur de lire quelques mots de cette chanson admirable qui dit toute notre vie de parolier. Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante, un peu distraite, en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la, la 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 la, longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Un jour peut-être, bien après moi, un jour on chantera cet air pour bercer un chagrin ou quelque heureux destin. Fera-t-il vivre un vieux mendiant ou dormir un enfant? C'était mon émouvant. Ou quelque part au bord de l'eau, au printemps, tournera-t-il sur un phono? Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leur âme légère court encore dans les rues. Leur âme légère, c'est leur chanson, qui rendent gay, qui rendent tristes, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds, longtemps, 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 la 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 la, etc. Voilà.
Merci beaucoup.
Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de simplicité, d'émotion simple, vous voyez. Il a pensé à son art quotidien, à son travail. Et puis, quand on est un poète de génie comme Charles Trenet, on peut se permettre cette chose tellement audacieuse d'avoir deux vers qui font « on fait la 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 ». Et c'est tellement vrai. Là, tout à l'heure, je vais m'en aller dans la rue à la recherche d'un autobus ou d'un taxi. Et ces jours-ci, c'est drôle parce que justement, je pensais à Charles Trenet. Il y avait une chanson de lui qui me revenait dans la tête. Au moment où elle aurait pas dû revenir parce qu'il fallait que je travaille, c'était « Douce France, cher pays de mon enfance ». Parce que lui aussi, quel mélodiste. On a envie de danser. Alors je m'en vais en dansant, mon cher ami.
Très bonne nouvelle. Merci Jean-Loup Debadie.
Avec grand plaisir. Thank you.